Et les matins se poursuivent avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur la réforme de l'assurance chômage. Elle a été présentée hier par Matignon et mécontente les partenaires sociaux. Objectif pour le gouvernement, 3,5 milliards d'économies et 250 000 chômeurs en moins. C'est ce que nous dira Noémie Philippot.
Le statut de l'élu va être lui aussi réformé. Des élus qui défilent à partir d'aujourd'hui dans le bureau du ministre en charge de la réforme et des élus fatigués, nous dira Rosalie Lafarge.
Nous reviendrons également sur le premier meeting de la deuxième campagne de Donald Trump. Il était hier en Floride, à Orlando, sur fond de slogans très semblables à ceux de 2016. Nous serons en direct avec Grégory Philips.
Et en Allemagne, à Berlin, la municipalité a décidé de geler les loyers pendant 5 ans. Réponse à la grogne des Berlinois depuis plusieurs mois.
Enfin, la grande exposition Léonard de Vinci au Louvre, ça n'est pas pour tout de suite, mais les réservations, elles, ont commencé dès hier. Elle doit accélérer la décrue du chômage et surtout permettre au régime d'économiser 3,5 milliards d'euros sur 2 ans. La réforme de l'assurance chômage pilotée par le gouvernement a donc été présentée hier à Matignon. Une réforme d'envergure qui s'articule autour de 3 axes. Côté entreprise, la responsabilisation des entreprises pour réduire le nombre de contrats courts avec un système de bonus-malus pour 7 secteurs parmi les plus gourmands. Côté demandeur d'emploi, des règles d'indemnisation plus dures et puis un accompagnement renforcé. Les précisions de Noémie Philippot.
L'ambition de l'équipe d'Édouard Philippe est claire, arriver au plein emploi. En ce qui concerne l'indemnisation, voici le constat de base du Premier ministre.
Il faut que le travail paye toujours mieux que le non-travail. Car actuellement, quelle est la réalité? Le mode de calcul de l'allocation permet parfois aux salariés en contrat court de gagner davantage une fois qu'ils sont au chômage que ce qu'ils touchaient en moyenne quand ils travaillaient.
Le calcul de l'allocation ne sera plus basé sur le nombre de jours travaillés, mais sur la somme gagnée chaque mois en moyenne. Obtenir le droit au chômage devient plus compliqué aussi. Il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur 2 ans. Jusqu'ici, c'était 4 et sur 28 mois. Mais pour autant, le Premier ministre se défend d'un projet purement budgétaire.
Loin d'une logique de rabot, cette transformation de l'assurance chômage devrait nous permettre, en effet, de faire des économies, devrait nous permettre d'abord et avant tout de transformer le marché du travail.
Et pour transformer ce marché, le gouvernement veut mieux accompagner les chômeurs. Muriel Pénicaud promet de donner un peu d'air à Pôle emploi.
Nous allons arrêter la diminution des effectifs qui était envisagée. La baisse du chômage, mécaniquement, crée du temps homme disponible pour quelque chose qui est le plus important, c'est être directement auprès des demandeurs d'emploi des entreprises. Et enfin, nous ajouterons plus de 1 000 agents supplémentaires pour les 3 ans qui viennent.
C'est le seul point positif pour les syndicats, mais pour le reste, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est excédé.
On a une réforme profondément injuste qui va toucher 100% des chômeurs. C'est une politique qui est mise en place, qui n'est pas du tout à hauteur de femmes et d'hommes. Nous sommes abasourdis de cette réforme qui est, je le répète, profondément injuste.
La réforme de l'assurance chômage doit être mise en place par décret d'ici la fin de l'été au plus tard.
Autre réforme, celle du statut de l'élu. Elle entre, cette réforme, dans sa dernière phase de préparation. Elle avait été repoussée pour cause de crise des gilets jaunes. Le ministre en charge du dossier, Sébastien Lecornu, reçoit à partir d'aujourd'hui plusieurs représentants d'associations d'élus. L'idée étant de peaufiner le texte avant de le présenter en Conseil des ministres, normalement à la mi-juillet. Cette réforme du statut de l'élu est sensible pour le gouvernement, car les élus, justement, l'attendent au tournant. Le reportage de Rosalie Lafarge.
Oui, parce que les municipales approchent et dans de nombreuses communes, on n'est pas sûr de trouver des candidats. Les volontaires se feraient de plus en plus rares.
Je connais beaucoup de personnes qui sont dans la vie active, qui se disent « mais d'aucune façon je vais m'engager aujourd'hui, revenez me voir quand je serai à la retraite ».
Et c'est bien la preuve qu'il y a un problème pour Christophe Bouillon, président de l'Association des Petites Villes de France. Il appelle de ses voeux la revalorisation des indemnités des maires, mais invite aussi le gouvernement à proposer un vrai projet de vie aux élus, notamment pour l'après-mandat.
Vous savez, avant, quand on était élu, c'était plutôt bien vécu. On se disait c'est quelqu'un qui, ayant eu cette responsabilité, pourrait parfaitement travailler dans notre entreprise. C'est moins vrai aujourd'hui, parce qu'il y a une sorte d'élu bashing qui fait que beaucoup d'élus sont au contraire pénalisés lorsqu'ils terminent leur mandat pour retrouver un travail.
Alors pourquoi pas prolonger l'indemnité de fin de mandat pendant 2 ans au lieu d'un, accentuer la formation des élus pour la suite de leur carrière, les aider à monter leur entreprise s'ils le souhaitent. Voilà ce que propose l'association et elle attend une réponse.
Je pense qu'il faut qu'on aborde la séquence municipale en ayant les idées claires en la matière, en adressant un message. Si on veut plus d'élus plus en activité, plus de jeunes, plus de femmes. Il faut faire cet effort et si on ne le fait pas, on risque d'assécher ce vivier. Et si on assèche le vivier, il faut savoir qu'on assèche aussi la République.
L'entourage de Sébastien Lecornu l'assure, l'avant-projet de loi aborde déjà les questions de la formation, des indemnités pour les élus des petites communes, évoque aussi une prise en charge des frais de garde d'enfants du maire, par exemple, un soir de conseil municipal dans les plus petites villes, ainsi qu'un retour de certaines compétences aux premiers édiles. L'objectif, dit-on chez les proches du ministre, c'est de présenter mi-juillet le texte le plus consensuel possible.
Rosalie Lafarge, dans quelles conditions l'attribution de l'Euro 2016 et du Mondial 2022 de football se sont-elles déroulées? Y a-t-il eu corruption? C'est ce que cherchent à savoir le parquet national financier et les policiers de l'Office anticorruption. Ils ont interrogé hier Michel Platini, ex-patron de l'UEFA, ainsi que deux proches de Nicolas Sarkozy, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, et la conseillère au sport, Sophie Dion, deux gardes à vue d'où chacun est ressorti libre. Le rappel des faits avec Jérôme Val.
2 décembre 2010, le comité exécutif de la FIFA attribue la Coupe du Monde de 2018 à la Russie, celle de 2022 au Qatar, à la surprise générale. Une désignation suspecte aux yeux de beaucoup des soupçons de corruption ébranle la FIFA jusqu'à son sommet. Sur les 24 membres du comité exécutif de l'époque, 16 ont été radiés ou font l'objet d'une enquête. Et c'est le rôle de la France qui est visé dans ce volet judiciaire, notamment une réunion secrète à l'Élysée quelques jours avant le vote autour de la table. Le président Nicolas Sarkozy, le prince héritier du Qatar et donc Michel Platini. Que s'est-il dit dans ces échanges? Michel Platini s'est-il laissé convaincre à ce moment-là de voter en faveur de l'émirat? L'ancien meneur des Bleus dément, il affirme avoir toujours défendu une candidature du Qatar. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, favorable aux États-Unis, évoquait il y a 4 ans une interférence gouvernementale de la France. Mais jusqu'à quel point? Dans un communiqué hier, Platini s'est dit totalement étranger à des faits qui le dépassent.
8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchouin. Donald Trump a lancé sa campagne pour un second mandat. Ça se passait en Floride, à Orlando, hier soir. Une deuxième campagne avec, du moins pour son lancement, de forts échos de la première.
Orlando, patrie de Disneyland, où le président américain a donc fait son show devant des partisans acquis à sa cause. Grégory Phillips, vous êtes le correspondant de France Culture aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à ce premier meeting aux allures de spectacle.
Oui, du grand spectacle même, hein. 20 000 personnes dans cette arène qui d'habitude accueille des matchs de basketball. Alors il n'y avait pas les 100 000 supporters annoncés un peu plus tôt dans la journée par Donald Trump, mais tout de même une marée de casquettes rouges, Make America Great Again. Trump accueilli sur scène par le vice-président Mike Pence, entouré de presque tous ses enfants et de son épouse Melania. Et Donald Trump visiblement heureux d'être en campagne. Il adore ça, ces grands meetings. Pendant 1h20, il vante son bilan économique, le meilleur, dit-il, de l'histoire des États-Unis. Il dit qu'il sera encore plus ferme envers l'immigration clandestine, et puis il promet enfin à ses militants chauffés à blanc de défendre leurs libertés individuelles, comprenez le 2e amendement de la Constitution sur le droit de porter une arme, ou encore leurs croyances religieuses concernant l'avortement.
Alors Grégory, en ce qui concerne les arguments et les slogans de campagne, on a pu entendre beaucoup de choses qui font écho à 2016.
Oui, parce que vous savez, Donald Trump hier soir a évidemment tapé sur les démocrates. Il a cité une fois Joe Biden, une fois Bernie Sanders, qui sont tous les deux candidats à l'investiture. Mais sur quel démocrate a-t-il le plus tapé hier soir, à votre avis? Eh bien, comme en 2016, Hillary Clinton, qui pourtant n'est plus du tout dans la course, et même à l'écoute des slogans de ses supporters, eh bien, on se serait cru revenu 4 ans en arrière. Construisez le mur, enfermez-la, allusion à Hillary Clinton. Le président fait aussi huer la presse, comme il y a 4 ans, et ça plaît à ses supporters. Trump 2019 fait du Trump 2016, et puis il prévient un seul vote pour les démocrates, et ce sera un vote pour un socialisme radical et la destruction du rêve américain dans ce pays. Cette fois, alors, la campagne pour la présidentielle de 2020 est bien lancée. Elle va être très très longue. On est à 503 jours de cette présidentielle.
Merci beaucoup Grégory Phillips. C'est un chiffre jamais atteint, celui des personnes déplacées, fuyant la guerre, les persécutions ou les conflits. Plus de 70 millions de personnes ont été recensées par l'ONU. Un rapport a été rendu public ce matin. Et parmi eux, plus de 13 millions sont devenus des réfugiés en 2018. Soit, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, 37 000 personnes forcées de fuir chaque jour. Et l'année dernière, un réfugié sur deux était un enfant. Le haut commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, indique par ailleurs que la vague de solidarité et de générosité de la part des communautés qui accueillent déjà beaucoup de réfugiés est sans précédent. Ils ne sont plus que cinq candidats conservateurs à la succession de Theresa May au Royaume-Uni. Et celui qui est en position de force, c'est Boris Johnson, champion des eurosceptiques, partisan d'un Brexit dur. Il a terminé hier largement en tête d'un deuxième tour de scrutin des députés, de son parti. Après cette victoire, Boris Johnson, habitué des gaffes, est pourtant parvenu à garder son calme dans un débat télévisé d'une heure contre ses adversaires sur la BBC. Le compte-rendu sur place d'Aude Soufi.
Tout le monde l'attendait au tournant. Avec une avance de 80 voix, Boris Johnson devait éviter à tout prix de se faire remarquer. L'habitué des gaffes, le spécialiste des polémiques, s'est montré discret, presque effacé, laissant parler ses opposants et restant évasif sur la plupart des sujets, comme la possibilité d'une sortie de l'Union européenne sans accord.
Personne ne veut un no deal. Un no deal désorganisé. Mais il est important de s'y préparer. Je pense qu'il y a un large consensus sur le fait qu'on doit sortir le 31 octobre. On doit se préparer. Préparer un no deal. C'est comme ça qu'on obtiendra l'accord dont on a besoin.
Extension ou pas, les candidats ont débattu de la date du Brexit sans vraiment expliquer comment le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Rory Stewart a défendu l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles, déjà rejeté à 3 reprises par les députés.
Au bout du compte, nous sommes dans une pièce avec une porte, et cette porte s'appelle le Parlement. Et je suis le seul ici à essayer de trouver la clé de cette porte. Tous les autres fixent le mur et crient « Croyez en la Grande-Bretagne ».
Après ce débat, les Britanniques n'y voient certainement pas plus clair sur l'avenir de leur pays ni sur celui qui le conduira. Les finalistes seront désignés avant la fin de cette semaine, puis les membres du parti voteront. Le gagnant deviendra Premier ministre d'ici la fin du mois de juillet.
En Allemagne, le Sénat berlinois a voté hier le gel des loyers pendant 5 ans pour endiguer la flambée des prix des loyers dans la capitale. Des prix qui restent bien en deçà de ceux pratiqués dans la capitale française. Mais depuis quelques mois, les Berlinois ont multiplié les actions contre cette hausse. Berlin qui avait pourtant la réputation d'une capitale, je cite, pauvre mais sexy. La mairie de Berlin a donc présenté un plan qui comprend le gel des loyers pendant 5 ans. Les précisions sur place de Ludovic Pietenu.
Les Berlinois en rêvaient tant la situation devenait impossible, les loyers ont doublé en 10 ans, la coalition au pouvoir dans la capitale l'a fait. Une coalition de gauche, rouge-rouge-verte, gauche radicale, sociodémocrate et écologiste, qui promet l'entrée en vigueur de la loi au plus tard au 1er janvier prochain, et pour éviter des hausses de loyers d'ici là, c'est bien ce 18 juin 2019, jour du vote, qui fera date. Ce moratoire, ce gel des loyers est donc rétroactif, c'était sans compter la colère de l'industrie immobilière qui parle d'un empiétement sur le droit de propriété et qui a invité les propriétaires à très vite augmenter les loyers ces dernières semaines. Mais désormais, rien ne pourra plus bouger ces 5 prochaines années, sauf les logements neufs occupés pour la première fois, mais dont le loyer ne pourra plus changer ensuite pour le locataire suivant. Une disposition de la loi permet enfin aux Berlinois d'obtenir sans attendre une réduction de leur loyer s'il est supérieur au prix du marché.
Ludovic Piétenu. Et puis en Allemagne toujours, la région de la Ruhr et plus précisément les alentours de Cologne se préparent à l'arrivée de milliers de militants écologistes européens. Ils vont tenter de bloquer notamment l'accès à la mine de charbon lignite de Garzweiler. Le lignite, c'est un charbon bon marché mais très polluant. Certains de ces militants campent depuis lundi près du site minier. Après l'atelier des Lumières et l'exposition sur le trésor de Toutankhamon, c'est une autre exposition grand public et grand spectacle qui va ouvrir ses portes à Paris le 24 octobre prochain. L'expo Léonard de Vinci au musée du Louvre. 120 œuvres du peintre italien, peintures, dessins, manuscrits, sculptures issues de collections du monde entier. Et depuis hier, la réservation des billets est ouverte. Elle est obligatoire en effet, sans cela, pas d'accès. Ce qui devient, Suzanne Chodjaï, de plus en plus fréquent.
Surtout parce que l'expo a lieu dans le hall Napoléon, le hall principal, 1000 mètres carrés. Et la direction du Louvre ne veut pas plus de 400 personnes en même temps. Elle garde en mémoire d'autres expositions avec cet espace plein à craquer. Vincent Pomarède est l'adjoint au président directeur du Louvre.
L'exposition sur les draperies de Léonard de Vinci, déjà Léonard de Vinci, dans les années 2000, qui avait eu un énorme succès et qui était une exposition un peu difficile à visiter parce qu'il y avait beaucoup de vitrines. Ils visitaient les uns derrière les autres. Et puis on a eu, enfin ça... Tout le monde s'en rappelle, malheureusement, les débuts de l'exposition Vermeer, qui ont été difficiles pour nous, parce que toutes ces œuvres étaient petites, que l'espace était plus restreint. Ce ne sont pas des conditions de visite acceptables.
Moralité, il faut imposer la réservation de billets sur Internet ou dans les magasins partenaires. D'autres le font, comme l'Atelier des Lumières, dernièrement pour son expo immersive consacrée à l'univers de Van Gogh, ou la Villette pour l'expo Tout en Camon. D'ailleurs, le public se tourne de plus en plus vers la billetterie en ligne. Pour le Louvre, entre 30 et 40% des personnes réservent leur entrée sur Internet. Alors Vincent Pomarède pense à l'avenir.
On voit arriver les Jeux Olympiques en 2024. Le Louvre est tellement magique et les gens qui viennent sur Paris, ils ont 2-3 lieux qu'ils veulent voir. Donc le Louvre en fait de toute façon partie, et la Joconde évidemment. Donc il faut qu'on anticipe. Et pour l'exposition Léonard de Vinci, c'est le bon moment pour essayer effectivement cette réservation obligatoire.
Donc peut-être un jour, on devra tous réserver notre entrée sur Internet, même pour les collections permanentes.
Un mot rapide du temps de ce mercredi. Attention aux orages cet après-midi du Massif central à la Franche-Comté. Des orages localement violents. Le ciel est encombré dans le nord, le nord-ouest et le centre du pays. Ciel plus lumineux sur la moitié sud-ouest. Et la Provence, les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés ce matin sur le nord-ouest, 14 à 18 ailleurs. Au plus chaud, comptez de 17 à 30 degrés du nord au sud jusqu'à 32 sur le sud-est et dans les plaines d'Alsace.